montagnes qui se sont dressées contre vous, vous pouvez déposer tout cela aux pieds du Seigneur Jésus et lui recommander vos défis, lui recommander vos batailles auxquelles vous faites face actuellement. Nous pouvons aussi prier pour notre thème qui est transformé pour transformer. Nous prions que le Seigneur nous transforme à l'intérieur comme à l'extérieur. Que cette transformation puisse être visible dans nos vies. Alors que nous allons commencer avec ce chant qui dit « Seigneur, transforme-nous de gloire en gloire à ton image. » Prions que le Seigneur opère un réel travail de transformation dans nos vies. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu, que ce ne soit pas qu'un simple refrain, Père éternel, mais que ce soit une réalité que tout un chacun de nous ici puissions vivre, Seigneur Jésus. Ta transformation en profondeur, ta transformation pour transformer, Seigneur Jésus. Ta transformation pour impacter, éternel Dieu, notre entourage. Ta transformation pour bénir ceux qui nous entourent, Père éternel Dieu. Que nous soyons transformés. C'est notre prière de ce samedi. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons passer un moment avec la chorale. Après ce moment d'adoration, notre maman Joséphine viendra nous introduire directement aux annonces. Donc je laisse la place à la chorale pour le moment d'adoration.
Thank you. Retiens la date vendredi 14, il y a Adassa. Nous aurons notre rencontre sur Zoom. Toutes les informations nous seront communiquées en temps voulu. Amen.
Amen.
Notre moment de prière aussi continue sur Zoom, mais avec un peu de changement. Comme samedi dernier, Papa Mayossé l'a expliqué, le ministère de prière prie maintenant, mais est devenu prière CPO. Amen! Alléluia! La dimension a changé. Vraiment, c'est la dimension de gloire, de toucher, de puissance avec ce moment CPO pendant lequel nous prions vraiment pour une porte ouverte. Amen! Gloire à Dieu! Donc cela, ce moment se tiendra lundi, se tient tous les lundis désormais à partir de 19h. Tous les lundis à partir de 19h, et ceux qui sont inscrits sur la liste CPO recevront les informations concernant le lien. Alléluia. Vous pouvez aussi inviter. Amen. Tous les francophones sont les bienvenus à ce moment CPO sur Zoom. Donc on peut inviter nos voisins francophones, nos amis francophones à se joindre à ce moment de prière CPO les lundis. Gloire à Dieu.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Notre culte continue en présentiel chaque samedi. Amen.
Amen.
Ah, ce chant-là nous a fait du bien parce que nous voulons la présence de Dieu, une autre dimension. Et pour cela, il faut honorer le rendez-vous que nous avons avec notre Dieu tous les samedis à partir de 16h30. venons en la présence du Seigneur et il va nous faire du bien. Il va renouveler, il va transformer, il va tailler, il va ajouter. Alléluia! C'est chaque samedi à partir de 16h dans cette même salle par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il y aura baptême. Amen. Il y aura baptême. Je voudrais inviter une voix plus autorisée, une voix plus puissante que la mienne, je vais dire comme ça, qui va vous instruire sur le baptême. J'invite le pasteur Berger. Alléluia. On acclame, bien sûr.
Bonjour à tous. Oui. Comme c'était déjà indiqué et que ma soeur vient de le dire, je me tiens là pour vous introduire au baptême. Excusez-moi. Ça fait en fait office de l'introduction, mais en même temps, je vais devoir enchaîner aussi avec les restes du programme et par rapport au baptême. Je ne sais pas si c'est bon. Voilà, nous avons quelques éléments. Juste un petit schéma que la technique pourra vous présenter en rapport avec le baptême. C'est une introduction et je voudrais que l'Église puisse être instruite. Nous sommes instruits concernant le salut en Jésus-Christ et vous savez, si vous devez résumer théologiquement le salut en Jésus-Christ, vous parlez avec un scientifique, un théologien, vous dites seulement le salut en Jésus-Christ égale déjà, et vous faites compléter, et pas encore. C'est un déjà et pas encore, à la fois. C'est pas un déjà, un pas encore séparé, non. C'est à la fois un déjà et pas encore. Alors, maintenant, ça va prendre plusieurs sens et significations. C'est comme cela que, dans notre Église, depuis la fin d'année dernière jusqu'à cette année, partant de la thématique transformation en profondeur, nous avons commencé à parler de transformer pour transformer. Nous sommes instruits, plusieurs parmi nous, connaissions l'ordinateur, et nous avons appris le parallélisme entre l'ordinateur et l'être humain en termes de composantes et de parties. Nous y revenons. C'est important donc pour nous d'être instruits. C'est pourquoi l'introduction au baptême que nous commençons aujourd'hui, qui va avoir lieu pendant 3 cultes minimum. Si on ne termine pas, on ajoutera un 4e. Cette introduction, comme enseignement, ne concerne pas seulement les candidats, les personnes qui voudraient se faire baptiser ou les personnes qui ne sont pas encore baptisées. Vous savez, parfois nous sommes là, ayant déjà été baptisés, sans bien comprendre pourquoi on a été baptisés et sans bien saisir toute la portée du baptême alors que avons déjà été effectivement baptisés. Mais nous pouvons aussi les comprendre en termes d'enseignement pour nous-mêmes d'information, mais aussi pour les autres, que Dieu peut mettre sur notre chemin. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé, comme les candidats et candidates qui se sont déjà inscrits, et ceux qui ne sont pas inscrits, et même si vous êtes déjà baptisé, pendant ces enseignements, si vous en arrivez à une conviction de la nullité de votre précédent baptême pour un nouveau baptême, ça sera fait. Mais ça sera alors pour la dernière fois, pour vous épargner d'être en cycle de baptême en baptême. Alors je voudrais que tout le monde comprenne Je voudrais vraiment pour ma soeur et fille Maria que son mari se mette à ses côtés pour traduire pour elle. Je sais qu'elle me suit. Elle écoute. Et je demande ça expressément. Alors, donc, chaque dimanche, vous aurez un micro-enseignement sur le baptême. Aujourd'hui, un micro parce que c'est bien court, autour de 10 minutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du baptême dans de la perspective des religions à la fois chrétienne. La perspective de religion par rapport au baptême voudrait simplement dire que dans toutes les religions du monde, les faits de religion, la religion est une donnée socio-culturelle. Parfois, on l'inscrit dans le cadre de la philosophie. Un phénomène de société, un phénomène de culture. Cela nous intéresse trop peu, mais ce qui nous intéresse, c'est que dans chaque religion, une religion, effectivement, se rapporte à l'expression des humains dans leur relation avec le divin. Les humains que nous sommes, pour entrer en relation avec le divin, on a l'habitude de le faire à travers des expressions que vous connaissez, entre autres, la croyance. Pour la foi chrétienne, parlant de la croyance, on va préférer le mot « foi ». Mais il y a aux côtés de la croyance, de la foi, des pratiques et des rites. Par exemple, lever les mains pour prier. Par exemple, s'agenouiller pour prier. Par exemple, se mettre, il y a des gens qui se mettent allongés. Ce sont des pratiques. Par exemple, offrir au Seigneur ce que nous les chrétiens appelons offrande. Ailleurs, ce sont des sacrifices et des offrandes. Lorsque les gens vont à des religions, n'importe lesquelles, ils apportent aussi offrandes. Ils apportent au monde. Ils apportent des choses qu'ils offrent à leur divinité, au Dieu, expression de leur religion. Il y a des pratiques, il y a des rites. Je me souviens, jeune, pendant le réveil, là où nous habitions, il y avait quelqu'un d'une famille, un monsieur marié avec sa famille, qui cohabitait dans un appartement, dans la même concession que nous, qui appartenait à une secte religieuse, à une religion. Et chaque matin, il sortait avec un gobelet d'eau et il devait aller le premier dans les toilettes pour se purifier. Donc chaque matin, il allait avec un gobelet d'eau. Et nous autres, avant d'aller, il fallait vérifier s'il a déjà fait le tour. Et nous, avec les réveils, on faisait des prières, des contre-prières, des exorcismes, parce qu'on se disait, il est secteur, il est en train d'embouter les toilettes. Donc chaque matin, il va aux toilettes avec un gobelet d'eau et de l'eau pour se purifier. Parce que dans la conception de sa religion, faire caca est se libérer l'organisme de ce qui est impur. Et vous n'avez pas une autre façon de devenir pur sinon que de pouvoir vous nettoyer avec de l'eau. C'est un rite et une pratique de purification. Et donc, nous trouvons dans ces religions diverses aussi d'autres pratiques de religion, parmi lesquelles la purification avec de l'eau. Depuis de très anciens temps, jusque chez les peuples juifs, les Hébreux, de qui le christianisme comme religion naîtra. C'est pour cela d'ailleurs qu'avant même que la religion chrétienne ne naisse, il y avait le baptême, il y avait la pratique de ces rites religieux. Juifs, rites religieux de la religion juive, purification par les eaux, qui a eu une dimension spéciale avec un nom particulier et on a commencé à appeler cela baptême. Et l'homme spécial qui a inauguré cela,
servant comme des charnières, des transitions entre la religion juive hébraïque et la religion qui venait, qui viendrait, qui naîtrait, que lui-même ne connaissait pas. Cette personne-là, ce personnage-là a eu un nom spécial du surnom de son ministère. Est-ce que vous comprenez de qui il s'agit? Comment vous l'appeliez?
Jean-Baptiste.
Donc le mot baptême commence pour la religion chrétienne, alors que la religion chrétienne n'existe pas encore, avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste veut dire simplement Jean, celui qui baptise, le baptiseur. Et c'est devenu comme son nom propre, Jean-Baptiste. Et c'est donc avec Jean-Baptiste que le baptême va maintenant rentrer comme une des pratiques sacrées, un des rites sacrés de la foi chrétienne. Et vous voyez, je suis parti du concept de religion à l'expression foi chrétienne, parce que ça dépend de vous. Sur le plan de l'histoire et des religions, le christianisme est une religion. Sur le plan de la théologie, le christianisme est un courant idéologique, ce n'est pas une religion. Et le christianisme religion diffère des autres religions. Je ne vous donne pas ici un enseignement sur les religions. Mais je voudrais vous faire comprendre que dans chaque religion, même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont des pratiques auxquelles ils tiennent. Imaginez cette personne-là qui chaque jour, juste un exemple que je viens de vous donner, chaque jour, il ne doit pas oublier son gobelet. Donc pour se purifier. Et sa vie, et sa santé, et sa personne, tout devient comme attaché au respect, excusez-moi, au strict respect de cette pratique-là. Alors qu'il est dans une secte. Alors vous et moi qui êtes dans le vrai, nous avons besoin de nous en tenir aussi au sérieux et au vrai respect des pratiques qui définissent notre foi chrétienne. Vous voulez bien, notre religion. Et le baptême est l'un de ces rites, l'une de ces pratiques, à cause de son caractère spécial. Parmi tant d'autres pratiques, il a pris le nom de sacrement. La foi chrétienne, ou bien la religion chrétienne, comprend pour les évangéliques deux sacrements. Les sacrements sont en ordre. Le premier sacrement, c'est le baptême, et le dernier, le second sacrement, c'est la communion ou la Sainte-Cène. Et selon d'autres familles chrétiennes, des traditions chrétiennes, il y a d'autres qui en ont plutôt six sacrements en ordre. Jusqu'au jour où vous mourrez, toute votre vie, vous la faites avec des sacrements. Et même le jour où vous voulez rendre l'âme, vous recevez un dernier sacrement qui vous introduit dans l'éternité. Il y a des traditions, des familles chrétiennes comme cela. Il y en a qui en ont six, il y en a qui en ont sept. Nous sommes de la tradition évangélique, biblique, avec deux sacrements, dont le baptême et la Sainte Cène. Qu'est-ce que le baptême? Comment ça se pratique? Qui doit l'avoir? Qui va l'administrer? Quand est-ce qu'on peut dire que ce baptême est vrai? À suivre la fois prochaine. Et je voudrais que nous puissions prier. Nous voulons prier. C'était une introduction. Il faut que vous. L'introduction, vous voyez, ça va vous accompagner comme ça, avec des questions. Et vous restez avec ces questions-là. Et maintenant, je veux prier. Comme je l'ai dit, que pendant ce moment, nos enseignements micro, tout petit cours sur le baptême vont nous permettre d'être informés et de réfléchir sur notre baptême. Et si nous sommes déjà baptisés, en réfléchissant, nous en arrivons à une nette conviction et nous allons dire merci à Dieu. Si on est déjà baptisé et que nous voyons que notre baptême là est sans valeur, alors nous allons le mettre en nullité et solliciter la grâce de Dieu pour nous faire encore baptiser. Et donc, pour cela, prenez très au sérieux ce moment
Récréons-nous un tout petit peu à la suite de ce que nous venons d'attendre. Pourquoi avez-vous été baptisé? Avez-vous compris pourquoi vous étiez baptisé? Êtes-vous déjà baptisé? Êtes-vous curieux d'apprendre encore à propos du baptême? Tenez-vous au sérieux le fait que vous soyez baptisé? Intégrez-vous la réalité du baptême, son sens et sa signification dans votre vie, de manière rigoureuse et respectueuse, vénérant votre Dieu et votre foi, disons votre relation? Dites merci au Seigneur pour ces petites modestes informations que vous venez de recevoir autour du baptême. En même temps, nous voulons nous ouvrir à sa parole, parce que je vais enchaîner avec la parole de Dieu et je vais prier avec vous, à la fois pour laisser nos enfants aller pour leur culte et nous autres pour la parole. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever, parce que bientôt vous serez assis pendant longtemps en écoutant la parole de Dieu. Levons nos mains, disons merci au Seigneur, vous qui êtes déjà baptisés. Levons nos mains, disons merci au Seigneur, vous qui ne l'êtes pas encore, parce que vous avez 150% de chance en étant ici de devenir réellement une fois pour toutes baptisés avec ce que vous allez apprendre, comme ce que vous venez d'entendre maintenant. Disons merci au Seigneur d'avoir permis que nous soyons ici, maintenant et aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui est un jour ouvrable. Nos amis qui travaillent auprès des Chinois ont travaillé. Disons merci au Seigneur pour nous qui avons trouvé la possibilité d'être là. Disons merci au Seigneur parce que nous ne sommes pas confinés. Nous avons des familles comme la famille de notre frère Hervé et la petite et Vanessa et Caleb, avec les bien-aimés, papa Cyril, maman Dopé et les autres, qui sont confinés parce que dans la semaine, ils ont été dans des milieux qui sont identifiés à risque. Et vous et moi, nous sommes là. En vivant, nous nous promenons, nous allons faire des courses. Et parfois, nous ne savons pas que là où nous allons, c'est déjà miné, c'est déjà ciblé, c'est déjà marqué rouge. Que Dieu nous garde ici à Pékin, chaque fois avec des réflexes de vérifier les endroits, les updates quotidiens, pour que nous ne risquions pas de nous retrouver victimes de tout ce qui se passe, que parfois nous ne comprenons pas. C'est pourquoi, une fois de plus, cette opération Chine porte ouverte, nous continuerons à le faire jusqu'à ce que toute la Chine s'ouvre. Voilà des raisons pour lesquelles nous pouvons prier Dieu qu'il nous parle, parce que c'est sa parole qui nous purifie. Ce n'est pas le rite d'aller aux toilettes avec un gobelet d'eau, mais la parole de Dieu par la foi en Jésus nous purifie, comme ce que nous venons d'entendre sur le baptême. Que cela purifie notre connaissance à propos du baptême et que celle que nous allons encore entendre maintenant nous fasse du bien. Chacun de nous prie. Vous ouvrez votre bouche et vous parlez au Seigneur. Merci. Père, merci. Merci pour la présence de ta fille. Merci pour la présence de ton fils en cet endroit. Merci de nous faire du bien par ta parole. Et merci Seigneur de nous nourrir déjà avec ces vérités autour du baptême. Nous croyons que tu convaincras, tu éclaireras chaque cœur, chaque frère, chaque sœur de décider quant au baptême dans sa marche et sa vie et sa relation avec toi. Merci notre Dieu pour nos vies et nos âmes. Et merci en particulier pour ce temps que tu nous donnes de nous tenir devant toi pour écouter ta parole et nous exposer à ton ministère transformateur par le Saint-Esprit. En même temps que nous, les adultes et les personnes à âge avancé, voulons nous tenir devant toi, les enfants, nos enfants se retirent pour aussi passer leur temps en ta présence. Que tu les fasses du bien avec les encadreurs qui ont été programmés. Nous bénissons ces instants, nous soumettons ces moments à la Seigneurie de Jésus-Christ et sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit, nous prions et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi des rois qui nous fait du bien alors que nous nous asseyons. Merci beaucoup. Nos enfants peuvent partir. Encouragez les enfants qui partent avec les encadreurs. Merci les enfants, allez-y. Allez-y, ils ne sont pas encore partis. Vous êtes assez modestes et pour les applaudissements, pourtant un peu gratuit, ça prend un tout petit peu d'énergie. Voilà. Merci. Alors, Je voudrais directement enchaîner avec la parole de Dieu, la deuxième partie. Et pendant donc quelques samedis, nous aurons ce programme comme cela, il dépendra. Mais aujourd'hui, après l'introduction au baptême, nous passons à la parole de ce soir, intitulée « La transformation en profondeur par le brisement ». Autrement dit, c'est un, vous pouvez dire « Transformation en profondeur égale brisement ». Vous savez, quelques temps passés, nous avons parlé de la transformation en profondeur comme air. Nous avons vu air comme rédemption, comme repentance, réveil, régénération, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voulons parler de la transformation en profondeur comme brisement. La transformation en profondeur égale le brisement, si vous voulez. Et je voudrais vous amener sur un rappel important, des choses importantes, parce que j'imagine certaines personnes qui nous ont rejoints en chemin, qui sont dépourvues d'un certain vocabulaire qui nous entend utiliser fréquemment, mais aussi parce que les scientifiques disent que la répétition, c'est le papa de la science. Non, ils disent pas ça, ils disent que c'est la mère de la science. Voilà. Donc, puisque la répétition, c'est la mère de la science, rappelons-nous, nous tous, ici, dans une assemblée de plusieurs scientifiques, depuis leurs excellents, les ambassadeurs, aux diplomates, jusqu'aux jeunes gens qui sont tout petits au niveau de la maternelle, au niveau de l'élémentaire des primaires, au niveau du secondaire, du collège et au niveau des universités, tout cycle. Nous avons ici un auditoire des savants, ici. Et nous avons besoin chaque fois de nourrir notre savance, notre science, avec des connaissances qui passent parfois par des répétitions. Nous parlons de la transformation en profondeur parce que nous sommes dans, cette année, la thématique de transformer pour transformer. Je veux être transformé pour devenir instrument dans les mains de Dieu de la transformation des autres. Et nous avons vu que la vraie et parfaite transformation s'est faite en Jésus-Christ à travers le salut. Et nous avons dit tout à l'heure que ce salut en Jésus-Christ est un acquis, déjà et pas encore. C'est un acquis, on le reçoit, on le bénéficie, mais on l'expérimente, on le vit et on le recherche. Le salut déjà et pas encore. Mais ce salut en Jésus-Christ concerne l'être humain que nous sommes. Et l'être humain, nous avons vu ici que nous sommes complexes. Vous vous souviendrez, par exemple, des diverses images d'autrefois. Je pense que la technique va nous aider à revoir certaines images comme le corps humain. Je ne sais pas si c'est bon. Vous allez voir le corps humain, vous allez voir l'ordinateur. Vous voyez le corps humain là-bas avec différentes parties. Et lorsque vous entrez à l'intérieur, vous me voyez ici comme un, comme une masse, comme une personne. Mais quand vous entrez dedans, ça fait des partitions. Je suis compartimenté, je suis complexe. Voyez, seulement le manger, lorsque vous ne faites pas attention à ce que vous faites entrer dans votre bouche pour envoyer là-bas, qu'on appelle l'estomac. Si vous ne faites pas attention, vous mangez, après vous courez quelque part. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, il dit attention, attention. Il ne fait pas attention, après, tout de suite là, il court quelque part. Vous savez ce que ça signifie. C'est soit l'un, soit l'autre. L'un, c'est vomir. Il peut aller courir pour vomir, ou alors l'autre, que vous pouvez citer vous-même. Donc, parce qu'on est complexe, on doit faire attention à la réalité de notre être. L'être humain complexe est comparé aussi à l'ordinateur, cet appareil, qui a été fait à l'imitation du cerveau, comment il fonctionne le cerveau humain, qui est aussi complexe. Et nous avons vu que l'être humain, nous sommes un appareil hyper compliqué. Et ça me rappelle avec ma femme, On a un peu fait de l'humour ces derniers temps. L'exemple que notre frère Oscar Napressa a donné de ce monsieur-là qui voulait pour connaître la femme. Il a lu 13, si c'est combien de livres, vous vous souvenez, hein? Quand je suis arrivé là, il a pressé, il a dit, un monsieur a dit, je veux connaître ce que c'est la femme. Et il a lu beaucoup de livres, je pense 13. Les personnes que chaque fois que sa femme faisait comme ça, il dit, ah, ça c'est le chapitre 13 de tel ouvrage. L'être humain, le savant, philosophe, théologien, Salomon, a dit qu'il a, lorsque vous pouvez étudier, jamais vous allez maîtriser tout ce qui est sur le sol et la personne humaine dans l'univers. C'est pourquoi la science continue, elle continue. Donc l'être humain est un appareillage hyper compliqué et complexe parce que nous avons dit qu'il est compartimenté. Complexe avec des parties. Complexe, ces parties ne sont pas disjointes. Ces parties font une unité, un ensemble cohérent. Ces parties sont interconnectées. Interconnectées. Vous avez un petit problème à l'orteil là-bas. La tête bat et vous n'avez pas sommeil. Interconnecté. Ça fait notre équilibre. Et avec tout cela, avec toutes ces images et toutes ces réalités, nous nous sommes vus obligés d'apprendre comment est-ce que notre vie en Christ, comme des enfants nés nouveaux, autrement dit sauvés, n'est pas un phénomène du jour au lendemain. On devient enfant de Dieu en un instant, mais on le vit tout le reste de sa vie. Du coup, la transformation en profondeur, transformer pour transformer, nous engage pendant tout le temps de notre vie. C'est pourquoi, par exemple, le dimanche, le samedi dernier, nous avons appris la transformation en profondeur par l'émondage. Nous voulons aujourd'hui, toujours, en nous enrichissant autour de ce que signifie la transformation en profondeur, nous voulons parler du brisement. La transformation en profondeur comme brisement. Le mot brisement est en français. Pour le comprendre, vous pouvez voir l'image d'un verre cassé. Vous prenez un verre qui est cassé. Je ne sais pas si on a une image comme ça. Voilà. Vous voyez un verre qui tombe, une vitre qui tombe et qui se casse. Vous êtes en difficulté de le remettre. Aujourd'hui, avec la science, vous ne pouvez pas ramasser ça et le reconstituer comme au départ. La science va faire quoi? On va le ramasser et le transformer. Et puis, la transformation peut permettre encore de créer autre chose. Voilà, le verre se casse. Il est cassé. Vitre. Brisé. En pièces, en morceaux. Waouh! C'est négatif. C'est irrécupérable. Donc, dire la transformation en profondeur comme brisement nous amène à une telle idée. C'est quelque chose de négatif qui fait peur. Mais alors, c'est notre transformation. De quoi s'agit-il alors dans le contexte biblique, chrétien? Si nous parlons de la transformation en profondeur comme brisement, le brisement, le fait d'être brisé, le fait de se laisser briser en tant qu'enfant de Dieu, cela est une façon, est une facette, est une forme de transformation en profondeur. Qu'est-ce que le brisement évoque? D'abord, laissez-moi vous dire que le brisement est étroitement lié à l'émondage que nous avons vu le samedi dernier. Transformation en profondeur par l'émondage. La différence fondamentale première entre émondage et brisement, c'est que c'est Dieu qui fait l'émondage. Regardez le texte utilisé par l'orateur Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Simon-Pierre Adové-Landé, dans Jean 15, avec le vigneron, le cerf, la vigne, les sarments. Vous voyez, l'arbre subit. C'est le vigneron qui vient pour couper les branches, pour tailler, pour mettre des engrais, ainsi de suite. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'émondage évoque le travail transformateur que Dieu fait sur nous. Dieu connaissant son appel pour toi, Dieu connaissant ton futur, Dieu connaissant quelle femme tu seras, quel homme tu seras, il te fait, il choisit dans sa souveraineté parfaite, remplie d'amour. La souveraineté parfaite de Dieu évoque le fait que Dieu ne se trompe pas, un, et deux, Dieu ne sera jamais dans l'erreur, et ce qu'il fait est suffisamment pour ton meilleur intérêt. Alors, quand il choisit de le faire, il n'a pas besoin de ta formation, de ta permission. Parce que, ne sachant pas nécessairement ce que, c'est d'abord notre futur nous échappe. Et notre destinée, nous pouvons en avoir des miettes, des vérités, d'idées. Mais Dieu, lui, il est éternel. La notion de futur n'existe pas chez Dieu. Elle est humaine. Du coup, sachant que ma fille, là, je vois, elle sera ceci. C'est à ça que je l'ai appelée. Dieu te fait passer par quelque chose. Et tu ne comprends pas, tu te sens broyé, brisé. Mon fils là, je l'appelle à ça. Il te fait passer le pas. Ça, c'est l'émondage. Tu subis cela. Parfois même en tant qu'enfant de Dieu, tu te plains et tu te révoltes. Tu murmures. Et après, tu te ressaisis. Mais si tu es éveillé, tu te plies à la souveraineté de Dieu et tu le laisses faire. Le brisement, ce n'est pas Dieu qui te force et qui te met par rapport à ce qu'il entend de toi, ce qu'il sait, ce que tu seras. Le brisement, c'est toi-même. Tu es conscient que pour que je devienne ceci, pour mon meilleur épanouissement, pour mon intérêt, j'ai besoin de tel traitement, de tel, de subir, de me traiter, de user de moi comme ça. Je me laisse faire, je me mets à ceci, je m'engage à ceci. Le brisement est volontaire, conscient, et est une action de l'individu, de l'enfant de Dieu, sachant ce à quoi Dieu l'appelle, et le besoin de passer par là. Il accepte d'y passer contre l'aise, parce que le brisement, comme vous entendez, est une action à caractère négatif. Le brisement. C'est comme une destruction. C'est comme une autodestruction volontaire. Voilà. Ça, c'est par rapport au brisement. Et en tant que brisement, dans l'explication que je viens de vous donner en parlant de cela plus en détail, nous avons un certain nombre de termes. Nous avons un certain nombre de termes qui, au fait, qui sont des concepts qui pourront nous aider à comprendre. Mais avant cela, lisons des passages bibliques où on ne trouve pas directement les mots brisement, mais nous allons trouver d'autres expressions sur lesquelles nous reviendrons. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Si vous voyez avec moi, lisons ensemble, allons-y. Donc vous êtes plus nombreux, moi j'ai le micro. Donc je ne lis pas avec le micro, je fais exprès pour que vous ouvriez un peu vos bouches. Allons-y. Reprenons, allons-y. Voilà. Et nous avons dans ce verset des termes qui sont proches, des concepts qui sont liés au brisement. Renoncer. Renoncement. Renoncer, c'est pas bon. Quand on dit renonce, tu es fâché, en colère, parce que quelqu'un t'a mis en colère. Alors, tu veux te venger. Tu as subi une injustice contre tes droits et tu es dans les conditions de te mettre dans les droits. On te dit renonce. C'est pas facile. C'est une sorte de violence à toi-même. Un autre terme, c'est charger de la croix. C'est charger, prendre un poids sur soi. Et ce poids-là s'appelle croix. Nous aimerions nous charger de l'argent. Ah oui, s'il y a de l'argent quelque part, et qu'il faut mettre dans les poches. On nous donne une compétition ici. Nous allons voir qui sont les gens très forts. Vous serez surpris de voir qui est plus fort. Vous serez surpris. Ah, c'est toi! Parce qu'il se sera précipité pour se charger de l'argent. Mais se charger de ce qui est négatif, la croix, ce n'est pas facile. La croix, ça donne l'idée d'épuisement, renoncement. Vous voyez? Et nous avons l'autre passage. Nous continuons avec Luc 14. Nous allons lire verset 25 à 27. Et puis nous allons sauter et lire le verset 33 pour terminer avec le dernier texte de Tite. S'il vous plaît, ouvrons nos bouches et lisons ce passage. Allons-y ensemble. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc on peut tolérer de haïr mère, père, mais quand ça arrive, et sa propre, et toi-même. Vous voyez, parce que père, mère, frère, sœur, donc tu haïs. Ta femme, c'est pas toi. Ton mari, disons, parce qu'on parle de femmes, c'est une société judaïque masculiniste, donc on parle de femmes, mais il y a aussi les femmes qui ont des hommes, nous pouvons interpréter comme ça son mari. Mais ça va plus loin, et sa propre vie. Comment ça? C'est grave. Ouais, ça c'est les dimensions du brisement. Mais nous continuons la lecture, allons-y. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors nous voyons des textes qui utilisent des expressions et des termes comprenant l'idée du brisement. L'idée du brisement. Et lorsque nous parcourons ces textes-là, terminons avec le dernier Tite, chapitre 2. Lisons Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. S'il vous plaît, allons-y ensemble. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Vous voyez, le salut arrive pour tous les hommes manifesté. Qu'est-ce que ça fait, verset 12? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le salut par la grâce a des implications. Parmi lesquelles implications, le renoncement à. Voilà ce qu'est le brisement. Des idées. Alors, de ça, nous avons, je vais vous donner un certain nombre de vocables comme concept qui sont à la fois synonymes dans un style antithétique, donc contraire. L'épuisement, vous avez le mot abaissement. Il y a l'abaissement dans brisement, abaissement. Le contraire d'abaissement, c'est élévation. Il y a le fait de se dépouiller, dépouillement. Le contraire de dépouillement, c'est revêtement. Le brisement, au lieu de se revêtir des statuts, des droits, des privilèges, on s'en dépouille. Le brisement, nous avons renoncé au lieu de réclamer. C'est mon droit. Vous renoncez. Et nous irons même dans d'autres textes qui parlent de brisement et de contrition. C'est-à-dire se sentir comme sans puissance, très faible, pour abandonner même l'idée de vengeance. À ça m'a fait rire ici. Parce que je pensais à. Avant que nous ayons une image qui illustre bien le brisement, je pensais à un passage biblique, à des versets où Jésus a dit si quelqu'un. T'arraches ton manteau. Un manteau, tu lui donnes l'autre. Mais l'Esprit m'a amené un autre verset. Si quelqu'un te donne une gifle à la joue droite, le texte dit quoi? Tu lui exposes la joue gauche. Je vais vous demander sincèrement entre nous, qui a déjà été giflé dans sa vie? Et on l'a giflé injustement et il a tendu l'autre joue. On pensait un tout petit peu. Mais si vous vous amusez, je sais qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes. Je ne sais pas parmi vous ici, mes frères et sœurs. Si vous êtes là, messieurs, soyez sincères, avouez-le. Si vous êtes là, ma sœur, avouez-le. Qui de vous, ma sœur, mes sœurs, ton mari excédé t'a donné une bonne frappe, une gifle? Peut-être c'était comme ça. Et puis tu as dit, chérie, prends encore ici. Qui? Quel homme? La femme, tu l'as giflé et puis dit, oh, comme moi je t'aime. Ajoute même celle, frère. Au contraire, nous sommes prêts. Ça me fait rire parce que je pense à un élément sur YouTube que ma femme m'a montré. Un homme, je crois bien, s'amusait, il est allé, il a tapé, je pense, sa femme. Je ne sais pas, il faisait quoi. Et puis la femme est venue avec, je ne sais pas moi, lui, il a donné un seul coup. La femme est venue, l'a tabassé, monsieur, pour montrer comment est-ce que, en fait, humainement parlant, nous sommes prêts à nous venger, à rendre plus que l'appareil. Nous sommes prêts à ça. Donc, c'est un enfant de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre plutôt à la gifle à droite d'étendre l'autre jour. Alors, je ne vais pas vous demander de faire l'expérience ici. Vous voyez? Pour nous permettre de comprendre le brisement. C'est des passages du livre que nous pouvons facilement citer, mais difficile à expérimenter. Et donc l'image écologique du brisement, c'est cette chose qu'on appelle ver de terre. Je ne sais pas si les enfants ici, si vous avez déjà vu le ver de terre. Je ne sais pas, le ver de terre réel. Bon, la science nous permet de voir. Voyez le ver de terre. C'est pas les enfants. Qui n'a jamais vu le ver de terre? Je suis sûr qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore vu, voir comme ça le ver de terre. Voir ça. Ok, qui n'a jamais touché le ver de terre? Il y a des gens même l'idée de toucher. Voilà, maman, mais il n'a jamais touché. Le ver de terre, nous, laissez-moi vous amuser. Nous, quand on grandissait, hein, on faisait la pêche. La pêche avec le ver de terre, ça servait d'appât. Vous prenez ça, vous prenez l'hameçon, vous prenez ver de terre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le ver de terre, c'est parmi les êtres vivants sans défense. Très vulnérable et très fragile. Le ver de terre n'est pas nuisible. Plus que la fleur. Parce qu'une fleur rose, si vous y marchez dessus, vous ne faites pas attention, elle vous pince, elle vous pique et vous saignez. Mais après, vous avez le parfum de la fleur. Mais le ver de terre ne va jamais vous faire du mal. Jamais. Au contraire, vous marchez sur le ver de terre, vous l'écrasez. Vous partez, vous revenez, il est devenu sable. Il est devenu le sol. Le ver de terre est un élément d'assainissement du sol, des valeurs qui assainissent le sol, de la corruption, de la pollution, le ver de terre. C'est un engrais naturel. Là où il meurt, le sol là, tu aurais besoin de plusieurs kilos d'engrais. Un ver de terre suffit. Sans défense. Ça, c'est le merveille de ce que Dieu a créé. Vous les brisez, ils ne se réveillent pas. En fait, Dieu voudrait amener notre dimension, notre vie à cette dimension-là, d'être des personnes vulnérables,
qui donne du goût à la maison,
qui donne du goût à la famille,
qui donne du goût à la femme,
au mari,
aux enfants,
à l'ambassade,
à la société,
à la classe,
aux relations,
et non pas de ceux qui sont des fauteurs
de colportage,
de troubles,
de vengeurs
et de revanchards.
Vers de terre,
une image
du brisement.
Et nous avons deux textes très forts dans la Bible
qui illustrent de manière théologique l'idée de brisement.
L'un dans l'Ancien Testament, lisons Ésaïe chapitre 53. Et l'autre dans le Nouveau Testament, c'est l'hymne christologique de Philippiens chapitre 2. Nous allons tout doucement à comprendre ce qu'est le brisement, parce que ça complète nos enseignements, la parole dont Dieu voudrait munir, nourrir, alimenter, abreuver nos vies, nos âmes en matière de salut, comme déjà et pas encore, dans le contexte de transformer pour transformer, autrement dit transformation en profondeur. Lisons Ésaïe 53, verset 1 à 12. Ce texte, c'est un texte de l'Ancien Testament. Les théologiens l'appliquent au serviteur souffrant. Vous voyez, on appelle ça le serviteur souffrant. Et les chrétiens l'ont interprété et appliqué au Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53. Allons-y. Ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, le brisement, la bouche. Nous continuons. Il est enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était l'étranger de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà brisement. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Wow! À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Amen. Celui qui veut avoir des parts avec les grands, il passe par le brisement. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs.
parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et vous pouvez sentir comme les chrétiens de l'église primitive, des temps anciens, plus de 2000 ans, ont compris en lisant ces textes que personne sur la terre n'est rempli toutes ces fonctions-là à part Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi une hymne sera chantée et proclamée en son nom. Nous sommes en Philippiens, chapitre 2, à partir du verset Philippiens chapitre 2. Et ce texte-là, nous le lisons encore. Nous allons le lire, Philippiens chapitre 2. Nous pouvons aller du verset 1er comme c'est présenté là-bas. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Parce que nous connaissons ce texte. Nous l'utilisons beaucoup. Mais je voudrais que nous commencions au début pour voir ce que nous aimons utiliser. Vous savez, nous aimons proclamer au nom de Jésus-Christ. Tout genou doit fléchir. Nous aimons ça. Mais ça vient d'où? D'un abaissement, d'un dépouillement. Il a renoncé. Il s'est humilié d'une humiliation. Voyez, le brisement, dépouillement, abaissement, renoncement, humiliation, contrition. Ça donne d'être élevé. Alors lisons encore s'il vous plaît. Allons-y ensemble. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça c'est Paul qui nous le dit, sous la puissance du Saint-Esprit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments de Jésus-Christ? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Waouh! Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là que nous aimons. Nous aimons cette partie-là. Mais n'oublions pas de rattacher ça au début. Voilà, allons-y, ce nom-là. Voilà, la suite. Afin, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Nous aimons ça. Est-ce que je peux vous exercer à vous lever un tout petit peu? Revenons au verset précédent. Voilà. Et nous allons faire ce que nous lisons. Parce que nous apprenons brisement. Mais notre modèle du parfait brisement, c'est Jésus-Christ. Nous nous inspirons de la parole de Dieu. Et nous avons suivi ce qui s'est passé avec lui. Et aujourd'hui, nous pouvons nous proclamer, prendre comme acquis les résultats de son brisement, de son dépouillement, de son abaissement, de son humiliation, de son renoncement à tout ce qu'il était de Dieu. Ayant renoncé, nous en bénéficions. S'il vous plaît, essayons alors de faire ce qui est dit ici. Lisons ensemble, allons-y. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, posent. Ah, merci, merci papa Ali. Ah, voilà, tous genoux à fléchir. Tous genoux. Waouh.
Tous genoux fléchis. Continuons la lecture.
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Nous continuons.
Et que toute langue confessons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Nous pouvons nous lever maintenant et acclamer ce Jésus.
Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. C'est pas la fin du message, nous pouvons nous asseoir. Vous savez, dans les ministères de délivrance, quand nous sommes dans des assemblées de réveil, ces versets-là, cette proclamation-là, quand on le fait, vous savez, les démoniaques, les gens qui viennent pour envoûter, ils ne savent pas. C'est comme ça qu'on voit. On ne fait pas, on n'oblige pas comme on a fait ici. On dit seulement, nous lisons et nous allons faire ce que nous disons. Vous voyez quelqu'un, vous dites, on s'est éliminé la délivrance. Et c'est des gens qui finissent par être délivrés. Ah, ici, je n'ai vu personne. Amen. Et vous voyez Jésus, dont nous nous servons le nom, pour proclamer la délivrance. Il est passé par le brisement. Alors, ce que nous voulons voir maintenant, alors que nous allons vers la fin de notre message, nous avançons tout doucement par rapport au brisement. Nous allons voir quelles sont les facettes. Nous avons compris un tout petit peu de manière générale ce que la transformation en profondeur égale brisement. Mais comment ce brisement se passe? À quoi ça s'adresse? Quels sont les différents aspects? Et quelle est la portée? Si pour Jésus, son abaissement, son dépouillement, son renoncement, son humiliation, son brisement, bref, a fait qu'il soit élevé au-dessus de tout nom, qu'il reçoive un nom, lorsqu'il est prononcé, des genoux fléchissent. Je vous dis, c'est la vérité. Ça me fait passer tout de suite là. Ça me fait passer tout de suite là à une femme, ici même, dans notre église. Ça va faire facilement 10 ans. Avec son mari qui était un diplomate haut gradé. Je pense un premier conseiller ou un ministre conseiller. Et cette femme-là, je ne sais pas, elle avait touché à quoi. Et avec ma femme, on dormait tranquillement vers 1h, 2h du matin, le téléphone sonne. Et c'est le monsieur qui appelle, qui dit, ma femme ne peut pas dormir. Il y a des esprits qui la menacent, les démons, dans la maison. Elle crie. Vous ne pouvez pas dormir. Et mon épouse, parce qu'elle est là, son téléphone toujours, en permanence, allumé, à cause de responsabilités diplomatiques. Moi, quand je finis. Elle me reproche parfois, je dis non, je dois me protéger. Elle a pris le téléphone. Et puis elle m'a réveillé. Puis on a écouté le monsieur. Et puis, tout de suite là, avec ma femme, on a dit, non, le nom de Jésus, il est puissant. Ce n'est pas seulement de la récitation. C'est vrai. Et j'ai dit, ma femme a tenu le téléphone. J'ai dit au monsieur, vous tenez le téléphone à votre main gauche. Et vous approchez votre téléphone à l'oreille de votre femme. Et vous mettez votre main droite sur la face de votre femme. Et je lui ai dit, cette main-là, monsieur, mon frère, je l'ai appelé dans son titre diplomatique, ce n'est pas votre main, c'est ma main. Moi, votre pasteur, c'est ma main. Ce n'est pas votre main maintenant, là. Vous croyez, oui, pasteur. Vous pensez qu'il y a un pareil, si comme ça, quelqu'un va dire non. Beaucoup de fois, oui, pasteur. Et j'ai dit, ça c'est ma main. Maintenant je parle. Vous répétez à l'oreille de votre femme à haute voix ce que j'ai dit. Et nous avons proclamé. Et nous avons dit au nom de Jésus-Christ. Tout esprit dans cette maison-là se taise. Jusqu'à ce que nous viendrons. Vous êtes maîtrisés hors de toute autre action de nuisance. On a proclamé avec ma femme et puis on a dit amen. Et vous savez quoi? Et monsieur riait. Il dit, pasteur, c'est magique. Je dis, quoi? Il dit, non, mais elle ronfle. Je vous dis sans exagérer. Ma femme est là. Vous n'avez même pas terminé de prier. Elle s'est mise à dormir. S'est mise à dormir et à ronfler. Waouh! Et puis après, avec l'équipe, nous sommes partis le lendemain pour faire la délivrance de la maison. le nom de Jésus-Christ. Ça me fait penser à une de nos filles dans la foi qui est allée accoucher. Le nom de Jésus ne travaille pas de fonction. Ce n'est pas seulement élevé sur les démons. C'est élevé même sur le système biophysiologique. Cette sœur est allée accoucher au Canada. Et c'est la fin de l'année. Et les frères du Canada qui sont anciens de notre église se sont arrangés à se retrouver pour célébrer le nouvel an. C'est son premier enfant. Mais le lait ne sort pas. Le lait maternel ne sortait pas. Elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle tenait à nourrir, à allaiter son enfant avec son lait personnel. Elle a eu l'idée de nous appeler. Elle a appelé ma femme. La nuit, et j'étais là. Et ma femme l'a écouté. Ma femme l'a encouragé. Et ma femme a dit, je veux maintenant prier pour toi. Le lait va sortir de ton sein. Ça va sortir. Je prie pour toi. Et ma femme a prié. Et le lait a commencé à couler. Au point qu'elle a voyagé avec des trucs pour protéger qu'elle ne se mouille pas. Le nom de Jésus. Pour être utilisé par toi et moi comme cela, lui a choisi la voie du crucifix. Si tu choisis la même voie, tu laisseras un héritage, déjà de ton vivant, et même quand tu auras quitté cette terre. Le nom de Jésus. La voie du crucifix. Alors, nous avons parlé du ver de terre. Vous pouvez voir encore une autre image, comme je parlais du ver de terre qui arrose. Vous pouvez voir la graine. Nous avons un autre passage dans la Bible qui illustre le travail, le résultat, l'impact du brisement. Je ne sais pas s'il y a d'autres images de fleurs. Voilà, vous voyez ce que le travail que fait le ver de terre. Vous voyez le ver de terre, hein? Le travail que ça fait. Cette herbe-là qui pousse, la terre-là, est devenue assainie. Un peu comme la terre du jardin d'Éden, pour faire pousser, parce que les vers sont morts là-bas. Et donc, ta vie morte par le brisement. Ah, attention, hein? N'allez pas vous suicider pour dire le pasteur a dit, hein, brisement. Par le brisement, non, non, il s'agit de la vie, tu es vivant. Vivant encore, mais tu choisis de mourir spirituellement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que nous apprenons. Tu vas faire pousser des choses. Et donc, pour cela, je m'en vais ici vous donner les aspects, les formes, les facettes que peut prendre le brisement. Le brisement se fait par rapport à la nature humaine. Le brisement par rapport à la nature humaine. La nature humaine, c'est le moi. C'est la chair que les Grecs appellent les sarx en grec. La nature humaine se manifeste à travers nos sens. Les brisements, les goûts, les yeux, les regards, les cœurs, les pensées, les sensations, les sentiments, nos émotions. Nos affects. Ah oui, nos désirs. Le cadre de notre plaisir, nos plaisirs. C'est le domaine en besoin de brisement. Nos forces, là où nous nous sentons très forts. Parce qu'il y a des gens qui utilisent leurs forces contre les autres. Parfois nos défaillances, nos faiblesses. On a besoin de brisement. Nos talents, nos dons, nos aptitudes. Voilà des choses citées en positif ou en négatif, mais en besoin de brisement. Les aptitudes, ce n'est pas négatif. Les dons, les talents, ce n'est pas négatif, c'est positif. Mais on peut s'en servir négativement de manière nuisible. Ça me fait penser tout de suite là. Un jeune homme qui avait le talent de jouer au piano, fils de pasteur, il jouait au piano terriblement dans son église. Avec ce don-là,
Vous savez, ces gens qui sont devant là comme nous qui prêchons, ces gens qui sont devant comme les vanelles qui jouent au piano, comme les charistes qui jouent à la guitare, comme les gens qui chantent là, ces gens-là, ils séduisent. Les gens les trouvent comme si ce sont des extra garçons, des extra femmes, des extra filles. On les envie, on les voit, waouh! Et ce jeune homme avec le piano, il est arrivé à un moment où, ma femme, tu peux me rappeler, tu te souviens de qui j'ai. Il a engrossé combien de filles?
Oh.
Hey. 4 filles à la fois. Oh. 4 filles à la fois. Nous étions à Kinshasa. Il a vu notre fils aîné jusqu'à. Et il disait, maman, il nous appelait papa, maman. Il disait, maman, je vais créer une association des enfants de pasteurs. On va s'encadrer. Parce qu'il trouvait que les enfants de pasteurs souffraient de beaucoup de choses. On traitait les parents de mendiants, de mangeurs des offrandes, des dîmes, de l'argent des autres. Et eux, les enfants, ne bénéficiaient pas du temps de leurs parents. Alors lui, il dit, on va faire une association des enfants des pasteurs. Des bonnes intentions, avec des talents. Mais elle vous a dit qu'elle a engrossé à la fois. Combien de filles? 4. Qu'est-ce qui lui est arrivé quelques années après? Il est mort. Il est mort. Jeune. Parce qu'il servait dans l'église sans être transformé, sans être brisé. Et son talent qui lui a tiré la séduction, la faveur des filles, a été utilisé par le diable pour les détruire. Le brisement par rapport à notre moi. Notre nature humaine, jeune homme, jeune fille, papa, maman, étudiant, diplomate. Notre talent. Nos talents. L'épuisement par rapport à la volonté de Dieu. Là, c'était par rapport à la nature humaine. L'épuisement par rapport à la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu est souveraine. La volonté de Dieu, elle est permissive. La volonté de Dieu, parfois, elle est compréhensible. On comprend que Dieu veut ça pour moi. Mais parfois, la volonté de Dieu, elle est inaccessible. Elle est non admissible. On ne l'admet pas. On ne l'accepte pas. Elle est dure et amère. La volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. Ah oui, je vous le dis. J'ai été consolé pendant 7 ans de deuil. Il y a un ami qui est aux États-Unis, il a épousé ma fille spirituelle. Il m'a partagé la vie. Oui, parce que je sais que ce n'est pas facile. Il m'a partagé l'expérience de son fils qui souffre, qui était révolté. Il devait faire un ministère pastoral. Pourquoi son fils est révolté, il souffre? Parce que son grand-père, le papa que je connais, de cet ami, comment il est mort? C'est le grand-frère, grand-père, grand-papa paternel de ces garçons. Comment il est mort? Il était diacre, moi je le connais comme ça, servant Dieu. Il va dans notre grande église à Kinshasa, ça s'appelle l'église du Saint-Hélène, où il était diacre. Il prie pendant le culte, il sert le Seigneur comme diacre pendant le culte. Et le culte se termine. Il sort du culte et il traverse, parce que l'église se trouve, il y a une grande route. Il traverse. Et il est ramassé par une voiture et il a meurt. Et l'enfant apprend cela de son grand-père qu'il connaît chrétien. 1, 2, de son grand-père qu'il connaît, il revient de l'église où il est allé servir Dieu. Comment vous pouvez dire que ça, c'est la volonté de Dieu? Quel Dieu? Un problème. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, parfois, c'est de faire accepter ce qui est sucré et bon et doux. La volonté de Dieu, c'est parfois c'est faire avaler ce qui est amer et non avalable. Mais après, c'est bon. Tu te rendras compte très souvent, c'est après. Mais parfois, même de notre vivant, nous ne nous rendrons jamais compte du bien fondé de cela. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il est Dieu. Le brisement, c'est aussi passé par la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Amen. La volonté de Dieu. Nous connaissons l'exemple de Jésus qui, à Gethsémané, a choisi de boire la coupe, de passer par la mort. Quelle est la vision de ta vie, jeune homme? Quelle est, jeune fille, ce à quoi son, ton cœur, c'est ça les a inclinés. Et qu'est-ce que tu vois sur ton chemin? Ça me fait penser à ce que Jésus a dit, le salut, le royaume de Dieu. C'est comme deux voies. La voie spacieuse, où il y a beaucoup de gens qui y vont, mais la finalité, c'est la perdition. Mais il y a une petite voie, difficile, peu de gens s'y engagent, mais elle est remplie de félicité et de bonheur. Ah, peut-être ton aspiration pour toi-même, par rapport à ta projection, c'est des choses douces, bien. Les jeunes filles, parfois c'est un garçon bien taillé. Mais tu vois Dieu mettre sur ton chemin le contraire. Attention. Dieu merci. Ma femme est là, je lui dis en secret, je n'ai jamais regretté d'être marié à elle. Jamais. Jamais regretté un seul instant. Et je ne veux pas vous tromper, ça ne suffit pas qu'avec elle, depuis le mariage, c'est seulement Alléluia, Alléluia, Amen. Aucun couple au monde n'est comme ça. C'est du mensonge. La vie humaine est faite de haut et de bas. Mais dans le haut, elle reste ma femme, volonté de Dieu. Dans le bas, elle reste ma femme, volonté de Dieu. Jamais je n'ai regretté. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas elle. Vous n'existeriez pas. Ah, mais c'est vrai. Parce que bien sûr, frère, tu ne serais pas. Vous comprenez? Oui, si ce n'était pas elle, ce qui a lieu maintenant n'aurait pas lieu. Ah oui? Parce que c'est à cause d'elle que je suis assis et que cette église existe et que vous existez. Vous voyez comment Dieu est bon. Nous attention à ce que vous, vous dessinez vous-même, vous fabriquez vous-même. Avec votre caboche et vos sentiments qui ne peuvent même pas atteindre un kilomètre de dimension. Par rapport au Dieu qui vous connaît sur le plan macro et infinitésimal, ouvrez-vous au travail de Dieu. Et soyez bénis, jeune homme. Soyez bénis, jeune fille. Même si ça vous paraît dur et amer. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Le brisement par rapport à la volonté de Dieu, comparé à ma propre volonté dans telle ou telle situation. Brisement. Trois, le brisement par rapport au caractère. Le caractère. Le brisement par rapport au caractère. Le caractère évoque notre personnalité. Le caractère évoque notre comportement. Et le caractère peut se résumer dans deux colonnes avec deux mots. Caractère. Qualité et puis défaut. Quand vous prenez chaque personne dans son caractère, vous y trouvez les qualités et les défauts. Nous avons besoin d'un brisement par rapport à notre caractère. Quatre. Le brisement par rapport au monde. Le brisement par rapport au monde. Et comment se manifeste le monde? Le monde, la Bible l'appelle parfois le siècle présent, les ténèbres, les temps présents, les générations perverses. Ça, c'est le monde. Siècle présent, temps présent, génération perverse. Mais comment pouvons-nous identifier le monde?
Comment le monde se manifeste à nous pour que nous puissions être avisés et faire attention à être visés, à nous mirer. Nous voulons nous mirer par rapport aux choses que nous voyons, là où nous avons besoin de brisement. Le monde peut se manifester à travers notre famille. Si vous êtes une jeune fille et vous naissez dans une famille, ça me rappelle une de nos sœurs qui était convertie. Elle était l'enfant unique de sa maman et sa maman était prostituée. Une prostituée. Cette fille-là convertie nous a confié son problème. Elle voyait sa maman le soir à 17h-18h faire la toilette et sortir pour aller chercher des hommes et revenir avec un homme, coucher avec, les laisser partir et sortir chercher un homme et venir. Elle était convertie. Elle voyait sa mère comme ça. Ça fait mal. Ça peut corrompre. Ça peut entraîner à la prostitution aussi. La famille, nous avons besoin de brisement. Il y a une fille qui avait décidé de se marier. Elle était chrétienne. Et ses propres soeurs lui disaient, refuse ces garçons, tu vas vivre. Parce que dans notre famille, on ne se marie pas. Et je ne vais pas très loin. Le temps va nous manquer. Le brisement vis-à-vis du monde. Le monde peut venir à travers notre profession, le travail. La profession. À travers l'école, à travers les relations, à travers les fréquentations, à travers la compagnie. La compagnie, c'est-à-dire les relations que nous avons avec les autres. Les us et les coutumes de nos pays, de nos origines. Parfois la culture, les mœurs, la mode, les habitudes, c'est la mode, les biens matériels. Et parfois ça m'étonne, chez moi, parfois je vois des jeunes gens qui portent un habit et derrière, j'ai remarqué ça quand j'étais à Kinshasa dernièrement. On a écrit quelque chose, caste. Vous savez, caste, ça signifie quoi? En anglais, C-U-R-S-E. Ça signifie quoi? Malédiction. Et quelqu'un a mis un très bon t-shirt. Devant. Bien là. Devant, on a mis New York City. Derrière, on a écrit malédiction en anglais. Il est là, ça fait l'image. C'est la mode. Il faut faire attention avec la mode. Parfois, c'est le bien matériel, les richesses, l'argent, les courants philosophiques, les courants de pensée, le système politique. Comme un jeune homme qui avait tenu aux États-Unis, qui cherche le travail, on lui dit, il faut que tu rejoignes la loge. Être de la loge. Pour bénéficier d'eux, pour faire partie du parti politique. Ce sont des défis vis-à-vis desquels la vie nous expose pour témoigner notre foi. Merci Seigneur, nous avons besoin de brisement. Et ici, je voudrais, parce que le temps touche à sa fin, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques par rapport au brisement, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Mais avant cela, laissez-moi lire avec vous un seul texte. Nous avons noté Romains chapitre 12, verset 2. Nous avons aussi Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 10. Et je voudrais qu'on lise seulement Romains chapitre 12, verset 2, et chez vous, vous lirez Colossiens 3, verset 5 à 10, et les autres passages qui sont là. Le texte de Philippiens 2 sur Jésus, que nous avons lu, que l'éthologie appelle l'hymne christologique, vous le trouvez en parallèle dans plusieurs passages. Et l'idée de brisement, vous le trouvez chez Paul, par exemple, qui parle de la crucifixion. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, Paul, j'ai crucifié ma chair. J'ai crucifié mon moi avec cette passion. Ça, c'est un texte de brisement et de consécration. Mais lisons Romains 12, verset 2, par rapport au monde et au brisement. Ensemble, allons-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tout cas, si vous prenez Romains 12, verset 1, vous ajoutez verset 2, vous appliquez votre vie chrétienne là, c'est bon. Le reste, ce sont les implications à partir du verset 3 jusqu'à la fin. Complet pour le salut. Un exercice qui nous prend de la consécration suite à notre conversion au brisement au quotidien dans notre foi. D'où, bien aimé, des conseils pratiques que je vais lire pour vous. Parce qu'après, on va prier. Parce que nous voulons nous mirer. Pensez à cela. Vous ne saurez pas écrire tout ça, mais je les lis sans commentaire. Donc, c'est des conseils qui veulent nous pousser à savoir, par rapport au brisement, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ce qui doit sortir de moi comme acte, comme comportement, qui va faire naître, qui va permettre de cultiver ou de traduire une transformation en profondeur qui montre que moi je suis brisé. Donc, un exemple amusant, comme je l'ai dit, votre mari vous donne une gifle, donnez-lui, s'il vous a giflé à la joue droite, donnez-lui la gauche. Je ne suis pas en train de dire à mes frères ici d'aller gifler vos femmes. Moi-même, ma femme est là, je ne l'ai jamais giflé. Même pas insulte, jamais, même pas une simple injure, jamais, depuis qu'on est marié, je ne sais pas combien d'années. Ça devait être tellement beau que je commençais à oublier, ça fait combien d'années. Bientôt 30 ans de mariage, jamais une insulte, jamais une gifle. Elle aussi, bon, elle réclame. Elle a dit vice versa. Elle ne m'a jamais tapé. Parce qu'il y a des femmes aussi qui tapassent l'air. Il y a des femmes qui tapent, hein, qui tapent le mari. Et l'homme va dire, je ne veux pas de problème. Toi, tu commences comme ça, tu me dis, je ne veux pas. Elle est là de te donner des coups. Elle donne, monsieur dit, moi, je ne veux pas de problème. Je disais, il ne faut pas aller appliquer cela. Mais nous avons des actes à poser qui doivent montrer dans notre vie, dans notre relation vis-à-vis de Dieu, que je suis transformé, je suis brisé. Amen. Amen. Alors, apprenons à cultiver, à développer cela. Voici quelques conseils pratiques que je voudrais lire à votre attention et à votre intention pour nous permettre de nous mirer et de prier. D'abord, notez que le brisement que nous venons d'apprendre va créer et développer en vous la maîtrise de soi. La maîtrise. Proverbe 16, 32 dit, mieux vaut quelqu'un qui est maître de lui-même qu'un héros. Être maître, savoir, c'est maîtriser soi-même. Le brisement va créer et développer cela en toi. Le brisement fait naître et développer le caractère. Tu veux être une femme de caractère, un homme de caractère. Quand on dit, cette fille-là, c'est une enfant, mais c'est une fille de caractère. Généralement, quand on dit comme ça, c'est un compliment, c'est positif. Ça signifie une personne de personnalité. Le brisement développe en toi être une personne de caractère. Le brisement oblige Dieu à nous élever, à nous honorer. Amen.
Tu veux que Dieu te glorifie, qu'il t'honore.
Choisis non pas la réclamation, la revendication des positions, mais apprends l'épuisement. Il va te glorifier. Et dans la pratique, nous avons pour l'épuisement, apprendre à nous exercer à mourir par rapport à nous-mêmes. L'épuisement, peut-être dans des situations de péché, il faut résister, refuser, abandonner, éviter, fuir, se repentir, quitter, changer. Notre épuisement, parfois, se fait lorsque nous décidons de quitter. C'est dur, c'est confortable, mais ça ne me fait pas épanouir, alors je quitte. Brisement. Le brisement se fait aussi par la prière. Seigneur, brise-moi. Transforme-moi dans ça. J'ai un problème avec ceci. Je n'en peux pas de moi-même, par mes propres forces. Brise-moi et façonne-moi. Transforme-moi en étant précis. Tu cites ce en quoi tu as besoin d'être brisé. Le brisement se fait en s'ouvrant au ministère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Qui a entendu la parole aujourd'hui sur le brisement? Qui lève sa main droite, pas gauche, mais droite. Tu as entendu la parole par rapport au brisement. Voilà. Maintenant, pense, cette parole que tu as entendue t'a donné quel aspect, quel domaine de ta vie en besoin de brisement pour lequel tu peux t'ouvrir à cette parole. Je viens d'entendre ceci. Saint-Esprit, brise-moi à la suite de cette parole. Amen. Nous vous ouvrir au travail transformateur du Saint-Esprit. Le brisement, c'est comme nous avons dit, parfois ne pas nous conformer au monde, mais résister. Comme Paul a dit, je traite durement mon corps et ma personne. Nous avons besoin de discipline, de traiter durement notre personne. Parfois, nous soumettre à Dieu et résister les brisements. Ah, je veux que vous vous leviez, nous allons prier. Ça me fait penser à quelque chose qu'on appelle le deuxième regard. Si la tentation, la séduction, les péchés parfois viennent, le monde nous sollicite par nos sens. Très souvent, c'est les regards. Et je me souviens, on était en conseil des pasteurs, ici même de l'autre côté, il y a quelques années, on parlait des tentations, on parlait de la sexualité, des tentations sexuelles, la séduction et tout. Et il y avait un conseil d'un aîné pasteur qui a dit, une des façons, et quelqu'un a demandé, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on voit, comment tenir? Comment avoir, par exemple, les regards, les yeux purs et ne pas pécher? Un aîné a dit, ce n'est pas le premier regard qui constitue le regard coupable, c'est le second. Il a dit, le second regard est coupable, le premier ne l'est pas. C'est-à-dire, lorsque tu vois quelque chose de sué, d'impur, de séduisant, une femme, pour nous les hommes, et c'est séduisant, l'être humain masculin qui a vu la première fois, naturellement va vouloir quoi? Regarder encore. Tu n'as pas programmé de voir. Tu as vu, ce n'est pas coupable. Mais maintenant, lorsque tu tournes pour regarder la seconde fois, c'est là que tu deviens sué et coupable. Oh Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Parle-nous Seigneur, apprends-nous encore. Mais nous nous exposons à être brisés. Nous pouvons prier. Parle au Seigneur. À quoi as-tu besoin des transformations en profondeur, qui s'appelle brisement. Demain ou après-demain, Dieu va t'utiliser comme instrument de transformation des autres. Mais Dieu voudrait, après avoir appris sur le mondage,
Il veut que tu apprennes à être transformé toi-même pour devenir l'instrument de transformation des autres. Parle au Seigneur pour toi-même par rapport au brisement. Parle au Seigneur par rapport à ce domaine de ta vie où tu sens le besoin d'être brisé. Nous prions Dieu. Ouvre ta bouche. Parle et prie personnellement. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ta parole. Ouvre-toi au travail du Saint-Esprit. Réponds au Seigneur à la suite de la parole que tu viens d'entendre. Parle au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et dans cette attitude, je voudrais que la chorale nous donne de méditer ce chant et de transformer cela en prière. Prions avec ce chant. Prions avec ce chant parce qu'après, il nous restera seulement d'offrir au Seigneur nos offrandes et de terminer avec quelques annonces et clôturer. Chantons ce chant que nous connaissons. Chantons-le dans la perspective du brisement. Chantons-le dans l'attitude d'une prière de quelqu'un qui veut être brisé, qui se laisse être brisé, qui ne veut pas se mettre obligé à le mandat de Dieu, mais qui choisit aussi volontairement la discipline du brisement. Chantons avec la chorale.
Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi ta voix, qui te plaît. Chantons ensemble. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la voix qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, façonne-moi, donne-moi la voix qui te plaît. Seigneur, brise-moi.
Nous allons Je pense rester debout pour offrir au Seigneur nos offrandes. Où nous pouvons nous asseoir selon notre aise pendant que la chorale va nous entretenir et nous reviendrons pour clôturer. Et offrons au Seigneur avec joie en célébrant le Seigneur. Et tout de suite là, nous allons conclure et terminer notre culte. D'accord.